RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Après les prêtres aînés, les prêtres âgés, on va s'intéresser tout de suite aux nouveaux prêtres, les prêtres un peu plus jeunes qui viennent d'être ordonnés par exemple. Comment sont-ils accompagnés? Comment doivent-ils être accompagnés dans leur mission? On va prendre l'exemple de deux organismes ce matin, et puis vous avez toujours et encore la parole pour participer à Je pense donc j'agis. Si vous êtes un jeune prêtre, venez nous dire comment vous êtes accompagné. Est-ce que vous avez rejoint un mouvement, un groupe qui vous permet de ne pas rester seul? Et même question que tout à l'heure, si vous avez dans votre entourage un prêtre qui a été ordonné il n'y a pas très longtemps, comment est-il accompagné? On vous attend avec vos témoignages au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous continuerons d'agir comme chaque lundi en parlant de santé mentale. Ce sera à 10h55 en compagnie ce matin de Sandrine Broutin de la Fondation Falleray. Elle nous parlera d'un sujet qui concerne certainement beaucoup d'entre vous, la condition des aidants. Voilà, ce sera à 10h55. Et pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Olivier Pelot.
Oui, bonjour, bonjour Melchior.
Merci de nous avoir rejoints en direct sur RCF. Vous êtes le président de Talentéo. Talentéo, c'est un organisme, un réseau qui a été créé il y a quand même quelques années, en 2005, et qui permet, et vous allez nous préciser tout ça, d'accompagner bénévolement, alors des prêtres, mais pas uniquement, des prêtres, des évêques, des religieux, on va dire, l'animation des célébrations. C'est du coaching, en fait, Olivier Pelot.
Oui, tout à fait. D'abord, ce mot coaching, c'est un mot un peu... on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est que le coaching? C'est d'abord, si vous voulez, une posture d'accompagnement qui n'est pas directive, qui ne dit pas ce que la personne doit faire, mais qui crée en fait un contexte favorable de partage, de relecture, qui va faire que la personne va prendre de la hauteur, du recul sur sa pratique. Et donc, en l'occurrence, les prêtres, effectivement, les religieux, les évêques. Et donc, nous sommes effectivement depuis 2005, 80, coach, tous des professionnels, donc tous engagés dans leur vie avec des clients au quotidien, et bien qui décident en fait d'offrir du temps pour leur église, parce que ils aiment leur église et ils veulent accompagner, et en tout cas ils se proposent d'accompagner prêtres, évêques, religieux, voilà, dans cette mission, dans ces ministères, soit diocésains, soit en vie communautaire.
Vous les accompagnez, vous les coachez sur quel plan ces différentes personnes? C'est très large, alors, on peut imaginer.
Oui, c'est très large, effectivement. Alors là, au début de l'émission, vous parliez beaucoup de tout l'accompagnement social. Donc ça n'est pas notre appel. Nous, on est vraiment très orienté vers l'aide, vers le travail autour d'une part de la dimension pastorale, ce que le pape François appelle la conversion pastorale. Finalement, une paroisse, on voit bien que l'idée même de paroisse dans son organisation est aujourd'hui très interrogée, puisque il y a moins de prêtres, les laïcs se disent qu'est-ce que je peux faire, et donc on accompagne cette réflexion, ce discernement sur une vision pastorale à la fois dans les paroisses, dans les diocèses et dans les communautés. Mais on sait bien aussi que finalement une conversion pastorale ne suffit pas, ou en tout cas elle est conditionnée par ce qu'on pourrait appeler une conversion relationnelle. Et en fait, on voit bien que la relation, elle est centrale. C'est le cœur, finalement, aussi de l'appel du prêtre, en fait. Le sacerdoce, c'est d'abord une relation avec le Christ, d'abord, et une relation de don envers un peuple, comme le Christ l'a été. Et donc, en fait, on va travailler sur ce qu'est une relation. Et une relation, elle a une dimension à la fois, évidemment, spirituelle, d'abord. Elle a une dimension théologique, qui doit être travaillée. Et puis, elle a une dimension aussi humaine, psychologique, qui doit aussi être travaillée et honorée. Et trop souvent, si vous voulez, on est un petit peu dans une logique d'opposition entre ces deux dimensions, la dimension spirituelle et théologique ou intellectuelle, et puis d'autre part, la dimension humaine ou psychologique. Et nous pensons en tout cas que les deux sont indispensables, les deux doivent être articulés, les deux doivent être distingués, mais vraiment bien intégrés. Voilà. Et donc c'est tout cet enjeu de la maturité humaine, en fait, qui doit être, qui est conditionné et qui rend possible ensuite une conversion pastorale au niveau des paroisses.
Merci beaucoup Olivier Pelot d'être avec nous jusqu'à 11h dans Je pense donc j'agis. Bonjour Anne-France de Boissière.
Bonjour Melchior et bonjour Olivier, avec qui je n'ai pas la joie d'être en présentiel. Bonjour à tous deux.
Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes sur un salon, c'est pour ça qu'il y a du bruit autour de vous. Vous êtes directrice de la formation et de la transformation pastorale au sein d'Alpha France et notamment responsable de Pasteur selon mon cœur. C'est justement ce qui va nous intéresser et plus particulièrement dans cette émission. Un parcours, le parcours Pasteur selon mon cœur, qui a pour vocation d'aider... les prêtres à quoi, Anne-France de Boissière? Les prêtres à se renouveler, à revisiter leur engagement?
Ah, vous avez raison Melchior, il y a de ça. Mais vous savez, les parcours Alpha, c'est des parcours d'initiation à la vie chrétienne. Quoi. Je ne sais pas si tous nos auditeurs savent ce que sont les parcours Alpha. Donc c'est des parcours qui sont proposés par les communautés chrétiennes pour permettre à des gens qui sont loin de la foi, loin de l'Église, de faire une rencontre avec le Christ et d'avancer dans la foi chrétienne. Et en fait... toute notre réflexion sur ce sujet des relations avec les pasteurs est venue d'une souffrance. En fait, qui était qu'on voyait des gens qui, par un parcours alpha, se mettaient à mieux avoir envie de mieux connaître Jésus, d'entrer dans une communauté chrétienne. Et en fait, notre communauté chrétienne n'était pas suffisamment mûre, saine, accueillante pour pouvoir être ces lieux où de croyants peut devenir disciples. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue cette intuition de Marc et Florence de Léritz, en 2011, de dire il faut également qu'on accompagne les pasteurs, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est transformer l'écosystème. En fait, on sait, nous, chrétiens, on n'est pas appelés à faire croître nos communautés, on n'est pas appelés à convertir. En revanche, on est appelés à avoir des communautés qui sont en bonne santé, parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui permet la conversion. Donc, les parcours Alpha ont pour objet également d'accompagner des pasteurs pour créer des communautés qui sont des lieux où des croyants peuvent devenir disciples.
Ça répond à un vrai besoin, d'après vous, Anne-France de Boissière?
Ah oui, ça répond à un besoin énorme. En fait, vous savez, au séminaire, les prêtres sont admirablement formés. Mais il y a, vous savez, ils sont formés sur comment enseigner, comment sur les sacrements aussi. Le Munus Regendi, qui est le troisième élément sur lequel ils sont formés, n'est pas celui sur lequel... ils sont formés de la façon, il nous semble, la plus adaptée à ce que va être le monde. Et en particulier, on vit dans un monde qu'on appelle post-chrétien. Et les pasteurs ont vraiment besoin d'être accompagnés pour développer en eux cette capacité à faire croître des communautés et à les rendre et à en faire des communautés en bonne santé. Donc le besoin est crucial, effectivement, Melchior.
Olivier Pelot, quand on entend Anne-France de Boissière nous présenter ce parcours, j'ai le sentiment que vous êtes très complémentaires tous les deux.
D'abord, bonjour Anne-France. bien sûr qu'on est, d'abord, on s'entend, on se connaît bien puisqu'on a mené ce parcours Pasteur selon mon cœur pendant 8 ans ensemble. Donc, on a, vous imaginez le nombre de jours de co-animation. Donc, effectivement, Alpha et Talentéo ont été partenaires et vraiment très engagés dans dans Pasteur selon mon cœur. Voilà. Et donc, effectivement, depuis un an et demi, chacun a, je dirais, continué son chemin selon son charisme, donc effectivement Alpha avec Pasteur selon mon cœur et nous le parcours Talentéo à la relation au gouvernement avec, comme vous dites, une tonalité un petit peu différente dans quelque chose qui reste proche, je pense, dans l'intention en tout cas, clairement, mais voilà, en tout cas moi je partage tout à fait ce que dit Anne-France, hein, on est complètement en phase sur ce diagnostic et effectivement l'enjeu c'est de nourrir cet écosystème pour qu'ils soient vraiment accueillants et missionnaires. Et donc la question, c'est que finalement faire des disciples missionnaires, cela implique de devenir et de développer cette capacité de pasteur. Et être pasteur, en fait, c'est pas juste donné par l'ordination. Bien sûr, la grâce agit puissamment, et il y a le devoir, la grâce d'État qui est donnée, mais ça se développe aussi. Et c'est vraiment une coopération humaine avec l'Esprit-Saint qui se fait, c'est nature et grâce, hein, qui vont de pair. Et donc, effectivement, le prêtre a aussi finalement la responsabilité de développer cette capacité pour encore mieux servir et laisser l'Esprit Saint agir puissamment en lui afin de d'être pasteur. Donc effectivement, je sais pas Anne-France ce que tu dirais, mais voilà, Alpha a vraiment cette vocation, je dirais, d'offrir ces parcours missionnaires magnifiques et que toutes les paroisses pourraient mettre en place utilement. Et puis le parcours talentueux peut-être a une dimension plus axée sur l'accompagnement. Voilà, mais ça c'est à grands traits. Mais on est vraiment bien en phase.
Anne-France.
Ah, je rejoins complètement ce que dit Olivier. Globalement, on est souvent en phase hein, avec Olivier, en tout cas entre Alpha et Talentéo. Et effectivement, nous, au cœur de ce projet qui a été initié par Marc et Florence de Léritz, donc il y a maintenant 11 ans à Toulon, il y a ce principe théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est effectivement sur l'articulation nature et grâce, qui dit que la grâce ne remplace pas la nature, mais elle la perfectionne. Et nous, on a vraiment à cœur que les pasteurs puissent développer, être pleinement pasteur, et ça passe par une contribution personnelle, quoi. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Donc il y a vraiment ce sujet. Vous savez, j'ai toujours cette image des noces de Cana. En fait, Dieu, il aurait tout à fait pu aux noces de Cana. Jésus, il avait tout à fait la possibilité de faire apparaître du vin. Et en fait, c'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé à des serviteurs de remplir d'eau les jarres, et il a transformé l'eau en vin. Comme les pains, hein, il a multiplié les pains. Donc Dieu nous demande de travailler un peu sur notre nature, et puis il multiplie, il rend fécond. Et vraiment, on a ça à cœur dans les parcours Alpha, qui effectivement sont des lieux missionnaires où des chrétiens engagés dans des communautés veulent faire découvrir la foi chrétienne à des gens qui sont loin, à des païens, aux perdus, avec cette dimension très forte de travailler également sur la gouvernance pour permettre que l'écosystème devienne un écosystème qui permet la croissance. Vraiment, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je me dis, vous savez, s'il fallait résumer, je dirais que Alpha fait des croyants, et tout ce que nous faisons avec Pasteur selon mon cœur, c'est de faire des disciples, donc de passer de croyant à disciple. En Matthieu 28, Jésus ne nous dit pas « faites des croyants », il nous dit « faites des disciples
». Je rappelle que vous avez la parole en direct dans Je pense, donc j'agis, pour participer avec vos témoignages. Si vous êtes un nouveau prêtre, un jeune prêtre, dites-nous comment vous êtes accompagné. Est-ce que vous avez rejoint un mouvement comme Pasteur selon mon cœur, comme Talentéo, ou un groupe qui vous permet de ne pas rester seul, ou en tout cas d'être accompagné dans votre mission? Et puis même question, si vous avez dans votre entourage un prêtre qui a été ordonné il n'y a pas très longtemps, comment est-il accompagné? On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou par mail à direct@rcf.fr. Anne-France de Boissière, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission du sentiment de solitude rencontré par beaucoup de prêtres, de problèmes relationnels également, sociaux. Comment vont les prêtres que vous rencontrez, vous, Anne-France?
Ah ben, les prêtres que je rencontre, de façon relativement paradoxale, ils vont à la fois bien et pas bien. C'est dur aujourd'hui, on va pas se mentir, qu'aujourd'hui, être prêtre dans une église catholique qui est incroyablement... objectivement, notre église, elle est sainte, c'est le corps de Jésus, mais elle est malade. Donc il y a beaucoup de prêtres qui souffrent de cette église qui n'est pas en bonne santé. Et en même temps, moi, je suis quand même frappée sur ce sujet très propre des jeunes prêtres, à quel point les jeunes prêtres, ils ont une foi, un enthousiasme extraordinaire, et qui vient, parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment dans l'église est aussi permet une purification dont je vois la fécondité. Donc je dirais que les jeunes prêtres en particulier, je trouve qu'à la fois ils sont conscients qu'ils sont dans une église qui a besoin de vivre une transformation majeure, et en même temps ils ont cette joie. Et moi je le dis de façon d'autant plus personnelle que j'ai un bébé prêtre dans ma famille, avec le jeune Paul qui a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Il va être ordonné en juin prochain pour le diocèse de Paris. Et quand je vois sa joie, et je pense que sa joie, elle est peut-être encore plus profonde, encore plus enthousiasmante que celle de prêtres plus anciens, parce que il va se mettre au service d'une église qui est en train de se réformer, de redevenir évangélique au sens propre du terme.
Olivier Pelot, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des crises hein, que traverse l'église actuellement. Est-ce que ça permet, enfin, ça force les prêtres d'une certaine manière hein, d'être beaucoup plus accompagnés, d'être beaucoup plus formés.
Ben, disons que bien sûr, tout simplement parce que les prêtres ne sont pas des surhommes comme finalement tout homme et toute femme de ce monde. Et et en fait, quand on est face à des situations de crise, d'incertitude, de troubles, comme ce que nous pouvons vivre, effectivement, il est important, en fait, de ne pas rester seul. Heureusement, beaucoup de jeunes prêtres ne restent pas seuls. Mais néanmoins, il y a tout un, je dirais, des espaces à créer, à accompagner, pour que justement ils aient ces lieux très libres pour pouvoir vraiment exprimer au fond de leur cœur ce qu'ils vivent. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a par exemple des groupes de relecture entre jeunes prêtres qui peuvent soit être entre eux, soit accompagnés par un coach, et qui va vraiment leur permettre de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai vécu là dans cette relation avec mon curé ou bien avec tel laïc. Pourtant, je voulais vraiment bien faire et puis j'ai eu du mal. Et je vais vous dire, c'est vraiment l'origine aussi de Talentéo. Hein. La Talentéo, ça a été quelque chose de très très simple. Hein. C'était une discussion en sortie d'équipe Notre-Dame, vous voyez, avec le conseiller spirituel qui était un jeune prêtre et qui me partageait tout simplement, il était très bien formé. Il avait une vraie vie spirituelle. Donc c'était vraiment un jeune prêtre qui était vraiment bien dans ses baskets, et pourtant il souffrait de cette relation avec son curé, avec les laïcs, les paroissiens. Et en fait, je voyais qu'il y avait la possibilité vraiment de travailler, d'investir davantage, de s'ouvrir, et qu'il avait vraiment besoin de ça, que c'était essentiel. Et donc c'est de là qu'est née en fait cette intuition de se mettre au service des prêtres pour les aider à avoir ces espaces de relecture, de prise de recul, de compréhension de ce qui se passe en fait dans des relations. Voilà. Et en fait, souvent, quand les relations ne fonctionnent pas, on voit souvent que les autres ont l'air de ne pas avoir compris quelque chose. Donc on va dire tiens, ça serait bien que l'autre change. Mais en fait, on voit bien que une relation, ce sont les deux personnes en fait qui ont à travailler sur cette relation. Et d'abord moi, quand je considère que cette relation n'est pas dans la qualité et dans la fécondité que je souhaite. Et donc c'est une invitation vraiment à travailler sur soi, à travailler pour aussi décrypter un peu ces angles morts hein, qu'on a tous, ces scénarios, ces modes de fonctionnement. Et ça va être source vraiment de fécondité, parce que ça va laisser l'Esprit Saint agir encore plus puissamment dans ces relations. Voilà. Alors, de façon très concrète, si ça vous intéresse, je peux vous dire, par exemple, il y a des diocèses où, en première année, après l'ordination, des prêtres se réunissent une fois par semaine. Vous voyez, pendant une journée, une fois par semaine. Vous voyez, c'est vraiment très consistant. Et puis après, la deuxième année, ça devient tous les 15 jours, troisième année, toutes les 3 semaines. Il y a comme ça tout des processus
un suivi.
D'accompagnement. Un suivi, tout à fait. Alors pas dans tous les diocèses, mais dans certains d'entre eux. Il y a aussi par province. En fait, souvent, donc ils rassemblent et donc des sessions comme ça de jeunes prêtres, souvent de moins de 5 ans d'ordination ou moins de 10 ans d'ordination, qui donc rassemblent souvent une province, c'est entre 5 et 10 diocèses. Voilà, et donc ils vont être formés, accompagnés ensemble, ce qui est aussi bénéfique parce que ça crée des relations aussi d'amitié entre jeunes prêtres d'une même province. Voilà. Et donc tous les sujets, souvent, en fait, ça va porter sur des situations qu'ils ont vécues. Voilà, un petit peu de soit de vie spirituelle, mais beaucoup de relations, beaucoup d'expériences pastorales. Et voilà, et c'est tout un processus aussi de partage. Quand on est marié, on est invité vraiment à ouvrir son cœur et à partager avec son conjoint. C'est aussi important quand on est consacré d'avoir des espaces, des lieux de partage en profondeur, où on va pas juste parler à la surface, mais aller vraiment dire ce que l'on vit, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous donne de la joie aussi. Et c'est ça qui va vraiment faire grandir aussi notre humanité.
Ce tissu relationnel, on l'évoquait déjà dans la première partie de l'émission en parlant des prêtres aînés. Anne-France de Boissière, ce suivi aussi, ce suivi une fois par semaine, pour prendre l'exemple du diocèse cité à l'instant par Olivier Pelot, il est nécessaire, il devrait être même obligatoire d'après vous dans tous les diocèses en France et ailleurs.
J'aime bien votre question, Melchior. Pour être très franche avec vous, sur un plan personnel, j'ai un peu de mal avec le mot obligatoire. Oui. Mais ça pourrait dire, parce que voilà, je pense que c'est, j'irais plutôt indispensable. Mais c'est vrai que cette question de la fraternité sacerdotale, pour moi, il est majeur. Je ne vois pas comment un prêtre, vous savez, les prêtres nous disent tous, et ils ont raison, un chrétien en danger est un chrétien isolé. Ils nous disent à nous couples, un couple isolé est un couple en danger. C'est clair que j'ai envie de dire la même chose pour les prêtres. C'est pour ça que nous, on a créé, dans le cadre de Pasteur Selon Mon Cœur, plusieurs propositions d'accompagnement. Et en particulier, on a créé des petits groupes qui s'appellent des écoles de gouvernance pastorale, et qui sont des lieux où les prêtres se retrouvent. Alors, moi, j'ai eu 5 qu'on a accompagné plusieurs promotions pour différentes communautés, pour différents diocèses, quelquefois, et même pour des vicaires généraux. On a 2 groupes de vicaires généraux qui se retrouvent régulièrement et qui partagent leurs problématiques. Donc, on leur donne quelques contenus. Mais surtout, ils partagent selon un processus de co-développement, c'est-à-dire que l'un pose sa problématique et les autres l'éclairent par des questions, par des remarques. Et comme ça, peu à peu, il arrive à trouver des solutions qui viennent de lui. Mais ce que je vous ai pas dit, Melchior, c'est que Pasteur Selon Mon Cœur, c'est une équipe. Hein. On est toute une équipe. Donc, cette école de gouvernance pastorale, je l'ai fait aussi avec d'autres laïcs missionnaires engagés, formés comme moi, comme Marianne Velers pour toutes les Hauts-de-Seine, Myriam Bigot dans le nord de la France. Donc, c'est des laïcs qui se mettent au service, souvent en couple, des prêtres pour les aider à fonctionner en communauté, dans ces petits groupes d'écoles de gouvernance pastorale, et on propose également ce qu'on appelle des voyages. On se rend compte à quel point un voyage permet une véritable transformation, en particulier quand un prêtre voyage avec d'autres frères prêtres, ou même avec ses équipes de laïcs. Donc c'est le lieu de partage, c'est le lieu où se vit une certaine intimité, et qui permet une croissance personnelle, et puis je dirais peut-être même une forme de protection. Comme il a dit, je vais juste terminer là-dessus, un prêtre me disait, je vais vous dire franchement, mais j'espère que ça ne va pas choquer nos auditeurs, un prêtre me disait, j'ai enfin trouvé un lieu où si je tombe amoureux de ma responsable de la pastorale, je peux le partager à d'autres prêtres et trouver un véritable soutien.
au moins, voilà, c'est très concret ce que vous dites, Anne-France de Boissière. Olivier Pelot, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement de Talentéo, qui fait appel au service, au coach de Talentéo? Est-ce que ce sont les prêtres directement ou c'est un peu plus compliqué que ça? Ça passe par les diocèses, les évêques peut-être aussi?
Non, ça peut être les prêtres directement. Donc, en plus, on est très accessible sur le site internet de talentéo.org. Mais effectivement, ça peut être un prêtre tout seul qui va nous solliciter. Et donc, effectivement, on lui propose dans ce cas-là, par exemple, le parcours Talentéo à la relation au gouvernement. Ça peut être, il y a aussi donc ces fameux groupes qu'on pourrait appeler d'intervision, voilà, où il y a effectivement du co-développement, mais tout de l'accompagnement en fait en petits groupes. Mais ça peut être le prêtre, ça peut être l'évêque qui va nous solliciter, ou le vicaire général. Voilà, donc vraiment toutes sortes de, enfin tous les prêtres qui ont besoin. Ce sont aussi des communautés religieuses, puisqu'on a créé l'institut Talentéo, où il y a beaucoup de religieux, pas que, puisqu'il y a des vicaires généraux, etc. Où là, c'est une formation plus en profondeur qui dure plus de 2 ans, avec un accompagnement individuel très très profond pour les responsables de communauté. Voilà, donc on peut être aussi prêtre diocésain et responsable de communauté, mais vraiment, donc il y a des maîtres des novices et super de congrégation pour vraiment travailler sur le gouvernement et la qualité relationnelle en fait dans les communautés, qui est un enjeu qui est absolument colossal.
Et après cette étape de prise de contact, on va dire, que se passe-t-il? Est-ce que vous allez créer un parcours sur mesure, ou alors vous allez finalement reproduire un schéma, un parcours qui existe déjà depuis longtemps chez Talentéo?
Alors il y a les deux. Il y a donc d'une part des parcours qui existent. Donc effectivement, j'ai cité l'Institut ou le parcours Talentéo. Donc ça, effectivement, des prêtres de tous horizons, de France et d'ailleurs, de l'étranger, viennent et participent. Mais aussi, nous répondons à la demande sur mesure. Notamment, par exemple, on a plusieurs diocèses actuellement qui nous ont sollicité pour réfléchir à leur projet pastoral. Comment envisager dans les années qui viennent une vision pastorale dans les paroisses, par exemple. Donc il y a tout un travail avec l'évêque, avec le conseil épiscopal, avec le conseil presbytéral, et parfois l'ensemble du presbytérium, tous les prêtres du diocèse, et on inclut aussi les laïcs engagés, notamment dans les EAP. Donc c'est tout un processus comme ça d'accompagnement qui peut durer 6 mois ou 1 an pour vraiment aboutir à une vision pastorale diocésaine, par exemple.
Et les évêques dans tout ça, est-ce qu'ils ont un rôle pour confirmer ces parcours, ces formations? Est-ce qu'ils sont là aussi comme accompagnateurs avec vous, avec Talentéo?
Bien sûr, absolument, ils ont un rôle central. D'abord d'encourager, je crois effectivement que c'est indispensable, et que effectivement ils ont à encourager, soutenir, favoriser pour leurs prêtres, mais aussi pour eux. Et on a fait effectivement deux parcours aussi pour les évêques, parce que et ensuite on les accompagne soit de façon individuelle, soit avec leur équipe, parce que eux-mêmes en tant qu'évêques, ils vivent cette forme de solitude et ils ont vraiment besoin de travailler sur sur ces relations et ce gouvernement. Donc ces évêques ont vraiment un enjeu majeur et on le sait avec voilà ce qui se vit aujourd'hui. Ils ont un enjeu de se confronter aussi à d'autres, de travailler dans la parité, c'est-à-dire d'être vraiment en entre frères, entre évêques aussi, créer la parité avec leurs prêtres, avec des laïcs. Et donc voilà, c'est tout un processus d'accompagnement aussi des évêques qui est absolument essentiel aujourd'hui.
Pour vous, Olivier Pelot, pour un laïc comme vous, peut-être chrétien aussi, qu'est-ce que ça vous apporte d'un point de vue assez personnel hein, dans votre vie, d'être comme ça, je vais pas dire au service des prêtres, mais en tout cas à l'écoute des prêtres aussi dans leur sacerdoce, leur mission?
Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je crois que moi j'ai entendu en fait un appel du Seigneur. Moi, il se trouve qu'au départ, à 18 ans, j'étais au séminaire et je me suis vraiment interrogé, est-ce que le Seigneur m'appelait à être prêtre? Et j'ai vu que le Seigneur ne m'appelait pas à être prêtre, mais à être laïque engagé dans ce monde. Donc je me suis marié, j'ai des enfants, mais je sens que voilà, il m'appelait, que c'est pas un hasard si j'ai fait ces 5 années de séminaire à 18 ans, et qu'il m'appelait vraiment à ce service-là. Voilà. Donc en fait, moi, c'est beaucoup de joie de servir. Parfois, c'est pas toujours que de la joie. Il y a aussi des difficultés, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, là où je reçois de la joie, c'est que je sens que je suis à ma place, que je fais l'appel pour lequel le Seigneur que le Seigneur a voulu en fait. Donc c'est d'abord ce discernement d'un appel en fait intérieur de se mettre au service des prêtres, des évêques, de l'Église.
Anne-France de Boissière, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'intitulé du parcours Pasteur selon mon cœur. Pourquoi ce titre?
Ah ben, ça c'est l'Écriture sainte. C'est quand Dieu nous dit en Jérémie je t'appelle, je vais appeler des pasteurs selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste beaucoup, un des éléments clés de ce parcours pasteur selon mon cœur, c'est cette articulation nature et grâce, avec cette conviction profonde que nous donne la théologie catholique, que la grâce ne remplace pas la nature mais la perfectionne. Donc pour être des pasteurs selon le cœur de Dieu, ça reste notre objectif, notre intention, et nous on est au service de cette intention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des pasteurs à vraiment répondre à cet appel que nous donne le Seigneur à travers l'Écriture sainte?
On va se retrouver dans un instant dans Je pense donc j'agis, toujours en direct avec vous deux, hein, Olivier Pelot et Anne-France de Boissière. Et vous continuez également de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner, pour participer à cette émission. Si vous êtes un jeune prêtre, allez-y, prenez la parole, venez nous confier comment se passe votre quotidien, si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous êtes accompagné, comment ça se passe dans votre diocèse. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Et puis pareil, si dans votre entourage il y a un jeune prêtre, comment ça se passe pour lui? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. Prince charmant, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours. à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois, à moi, au temps que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te manques bien, aux défauts que je t'ai cachés, mes idées de paladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, au souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amoureux qui sont comme nous. À toi.
Reprise de cette chanson à toi de Joe Dassin, reprise par Mathieu Chédid sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h, Anne-France Deboissière, vous êtes directrice de la formation et de la transformation pastorale au sein d'Alpha France et vous nous parlez notamment ce matin de Pasteur selon mon cœur. Olivier Pelot est également avec nous, le président de Talentéo. Olivier, on parle depuis le début de cette émission de la notion de coaching hein, qui est à la mode en ce moment. Et ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que une institution comme l'Église finalement a besoin d'y recourir à un certain moment, notamment pour les prêtres. Mais qui sont ces coachs ?
Alors, qui sont ces coachs ? Ce sont des chrétiens qui sont tous donc certifiés coach. Donc pour être coach certifié, il faut faire une école. Et puis on a aussi des conditions en fait. Il faut être supervisé, continuer à se former, à pratiquer. Donc en fait, c'est un discernement en fait qui se fait en plusieurs, en une année, un petit peu plus, où en fait on reçoit des coachs qui se proposent en fait de servir, et donc ensemble on discerne à la fois sur un point de vue professionnel et puis d'un point de vue également humain en termes de maturité, et puis voilà, on vérifie en tout cas qu'ils ont cette ouverture, ce désir de servir l'Église, qu'il n'y a pas de compte à régler, si vous voulez, par rapport à l'Église, c'est important. Voilà, c'est toutes ces dimensions en fait qui vont faire que voilà, le coach va pouvoir cheminer, et puis progressivement on va lui donner du feedback, on va l'aider vraiment à se mettre au service voilà des prêtres et des évêques, des religieux. Donc c'est pas juste je lève le doigt, j'ai envie, mais c'est un discernement ensemble, et c'est ce qui fait qu'on veut, eh bien aujourd'hui on a une communauté de 80 coachs. Ce sont tous désireux de donner souvent entre 10, 20 jours, parfois plus, bénévolement en fait pour l'Église. Voilà. Donc voilà un petit peu des coachs. Donc c'est effectivement une compétence qui s'acquiert, hein, qui se développe et qui permet vraiment de porter du fruit en fait.
Voilà. Comment, alors si on ouvre un petit peu plus hein, le sujet, et je reprends ce que je disais il y a un instant, comment peut-on expliquer qu'une institution qui est ancienne quand même, l'institution telle que l'Église, ait besoin de recourir un certain moment au coaching, parce que le coaching, ça s'est développé quand même, ça fait de nombreuses années, mais c'est quand même assez nouveau dans l'Église de voir que des coachs finalement ont leur place aussi.
Bien sûr, d'ailleurs, on a souvent parfois des interrogations, voire des critiques disant mais l'Église n'est pas comme une entreprise et donc qu'est-ce que sont ces techniques qui viennent de l'entreprise, voilà. Alors ça, moi, ça me, je suis toujours assez surpris d'entendre ça parce que, en fait, d'abord, le coaching, c'est pas spécifiquement au service de l'entreprise, c'est au service des organisations et des personnes qui ont des responsabilités. Et en fait, le coaching vient a beaucoup reçu aussi, et je pense au Père du désert, où il y avait vraiment une recherche sur et la dimension spirituelle et la dimension humaine. Ensuite, les grands fondateurs, je pense que ce soit à Saint Benoît qui a écrit sa règle, qui a vraiment travaillé quelle est la responsabilité de gouvernant d'une communauté, et puis Saint Ignace qui a été quand même le grand maître pour moi. C'est le premier coach, après Jésus quand même, c'est-à-dire celui qui va d'abord poser des questions, qui va favoriser un espace de relecture, qui va, voyez, tous ces processus, en fait, qui vont favoriser, en fait, des prises de conscience, une ouverture, parfois une confrontation saine avec d'autres pour ne pas rester isolé, justement, dans son quant à soi. Donc, en fait, toutes ces approches de coaching ont été beaucoup nourries, en fait, par notre foi chrétienne. Et ont été heureusement, bien finalement aussi, ont fécondé à l'extérieur de l'Église. Et tout le courant de la psychologie, finalement, aujourd'hui, a apporté aussi ses richesses. Et il y a comme un va-et-vient, en fait. Et il y a une richesse aussi à recevoir du monde. Et donc, moi, je crois que c'est un acte d'humilité, précisément, de la part de l'Église, de se dire, tiens, eh bien, je ne vais pas être isolé tout seul, mais je vais aussi recevoir de laïcs, de frères et de sœurs laïcs qui ont des compétences. Voilà. Et donc ça, c'est à mon avis très puissant, c'est très bon. Et quand je vois, moi, d'un point de vue professionnel, je dirige, donc, j'ai un cabinet de coaching et j'accompagne des dirigeants de grands groupes mondiaux qui ont 50, 60 ans et qui me sollicite pour me dire voilà, j'ai besoin d'éclairage, et pourtant ce ne sont pas des perdreaux de première année. Ils ont vraiment une sacrée expérience et ils dirigent parfois plusieurs dizaines voire centaines de milliers de personnes, donc et ils ont besoin et ils expriment un besoin d'avoir ces espaces de coaching. Alors je me dis, pourquoi est-ce que un prêtre, un évêque n'exprimerait pas ce besoin précisément? Voilà, parce que justement on est homme, et quand on a des responsabilités, on souffre souvent de cette solitude. Et quand on ne souffre pas, d'ailleurs, il faut parfois s'inquiéter, parce que de se dire, parce qu'on croit peut-être à avoir toutes les réponses en soi. Et d'où l'enjeu, effectivement, d'avoir ces espaces de relecture, de confrontation, de questionnement, qui vont nous ouvrir, qui vont nous interpeller, qui vont nous permettre vraiment de nous interroger sur notre mode de gouvernement. Voilà, et c'est ça ce que nous apportons avec humilité, parce que on ne prétend pas avoir des réponses à tout, mais vraiment favoriser chez le prêtre, chez l'évêque, le religieux, ces lieux de relecture.
C'est un peu poussif ce que je vais dire, mais est-ce que vous formez les prêtres au management ?
Eh bien, former des prêtres au management, on pourrait dire oui en partie, bien sûr, mais on sait bien que le management, ce n'est pas qu'une question de technique, mais il en faut aussi, et on a besoin de techniques aussi. Comment déléguer, comment animer une réunion, c'est une base nécessaire et il faut l'apprendre. Mais on sait bien que ça ne suffit pas non plus, parce qu'il y a aussi une question de posture, d'attitude, de vision. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de se dire dans quelle orientation je vais aller. J'avais encore en conversation hier une personne qui me disait, mais en fait, voilà, on ne sait pas où on va. On a des paroisses, on doit réformer, mais on ne sait pas dans quelle direction. On a besoin vraiment de se dire dans 10 ans, voilà, quelle vision pastorale nous allons vivre en France avec nos paroisses et nos diocèses. Comment faire en sorte que les prêtres puissent se donner dans une mission qui porte du fruit et qui ne soit pas simplement la gestion d'une faillite annoncée. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont une soif incroyable de se donner, d'être d'évangéliser, d'accompagner. Eh bien, c'est important que les laïcs aussi s'engagent avec eux, avec les prêtres, dans cette vision pastorale et cette conversion pastorale.
Anne-France de Boissière, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Olivier Pelot. Ça rejoint finalement toute forme d'organisation, d'entreprise bien sûr, mais aussi d'associations qui ont besoin d'une organisation pour que ça fonctionne. Et si une paroisse par exemple n'est pas bien organisée, ben ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal.
Oui, vous avez complètement raison. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivier et je vois toute la bénédiction de ce que fait Olivier et son équipe pour l'Église. Ce que je constate, j'entendais une réflexion d'un évêque qui était très drôle. Il me disait effectivement que l'Église n'est pas une entreprise, mais qu'en tout cas, il dit qu'il ne faut pas que l'Église fonctionne comme une entreprise. En revanche, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas au moins aussi bien. Et moi, je suis quand même frappée de voir que parfois, au nom d'une forme peut-être, il peut y avoir une démarche un peu, une forme de candeur. En fait, je vois beaucoup de souffrance dans certaines paroisses. Je pense à des sujets très précis. Par exemple, un jeune curé qui me disait « Moi, j'ai du mal à dire des choses négatives. » Donc, il dit « J'ai une dame qui chante épouvantablement faux depuis 10 ans à la paroisse. Et en fait, je n'arrive pas à lui dire d'arrêter. » Parce qu'en fait, il n'avait pas cette posture qu'on apprend dans d'autres contextes qui permet de faire ce qu'on peut appeler un entretien de recadrage. Donc, il y a vraiment quelque chose des sciences humaines et sociales qui est à prendre dans l'Église et dont je vois toute la fécondité dans les paroisses qui sont accompagnées par nos missionnaires Alpha. Et je vois une vraie transformation de cette culture.
Pour être un peu plus concret, Anne-France de Boissière, quelles questions sont abordées dans ce parcours Pasteur selon mon cœur ?
Alors, on aborde 4 grandes questions. En fait, il y a 5 grands temps. Le premier, c'est sur la connaissance de soi. En fait, avec cette idée majeure qui est que pour être leader des autres, il faut d'abord que je sois leader de moi-même. Et ça, c'est également une phrase de l'Écriture sainte. Si tu veux être peuple de... Sois d'abord leader de toi-même, quoi. C'est cette importance extrême sur la juste relation à l'autre est quand même liée à la juste relation à soi-même, la juste relation à Dieu. Le deuxième temps qu'on aborde, c'est tout ce qui est lié à l'équipe. Comment je peux faire émerger des leaders? Comment je peux vraiment pratiquer cette synodalité qui est absolument maintenant qui est devenue une urgence? Le troisième temps, c'est tout ce qui est lié à la conduite du changement. En fait, cette idée fondamentale qui est que le changement commence d'abord par moi-même. Vous savez, Melchior, moi je passe mon temps à rencontrer des curés qui me disent « Est-ce que vous pourriez venir m'aider, Anne-France ? Parce que moi, j'ai une équipe, ils bougent pas du tout. Ouais. Ou ils sont pas proactifs. Mais moi, je demande qu'ils soient proactifs. » Et il me dit « Venez comme observateur à une réunion, venez m'accompagner. » Et je me rends compte que les prêtres me pardonnent s'ils m'entendent, mais quelquefois des curés qui sont, ou des jeunes prêtres, qui peuvent être soit très, très... avec une forme d'autoritarisme qui est normale dans un premier temps, mais qu'il faut réfléchir, qu'il faut travailler, ou au contraire, se laisser complètement mener par des équipes de laïcs qui ont pris une certaine forme de pouvoir parce qu'ils sont là depuis 30 ans, alors que le prêtre, il est là pour 6 ans ou 9 ans. Et le quatrième temps, c'est tout ce qui est lié à la co-construction de la vision. Le nombre de fois où j'entends des prêtres me dire « soit j'ai pas de vision », or, c'est vraiment bien exprimé dans le livre des Proverbes, « faute de vision, le peuple s'épuise », ou alors il dit « j'ai une vision, mais mon équipe ne le comprend pas ». Donc ce sujet qui est de dire « mais la vision, elle se co-construit ». Et puis il y a un cinquième temps qui est absolument majeur, qui est ce qu'on appelle le week-end pastoral, où les prêtres viennent avec leurs équipes de laïcs, et rien que le fait de sortir de leur paroisse avec quelques laïcs engagés, déjà il y a un début de transformation. Et c'est ça qui mène à cette transformation globale du système, qui est vraiment au cœur de ce qui porte Alpha, qui est vraiment Alpha porte à cœur cette transformation de la culture pour que nos paroisses redeviennent missionnaires.
Olivier Pelot, comment ce parcours, enfin tout ce que vous proposez à Talentéo, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps non plus de tout dire, mais comment c'est reçu chez les prêtres? Comment sortent-ils des différents parcours? Est-ce qu'ils, vous avez le sentiment qu'ils en sortent transformés peut-être ou vraiment avec des clés pour mettre en place cette vision?
Moi, je vois vraiment des des changements incroyables avec des prêtres qui témoignent en disant combien ça a été une étape majeure dans leur ministère en fait. Hein. Et ils se rappellent parfois, c'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans, il y a 5 ans, ce moment de bascule où effectivement ils ont vraiment travaillé d'abord sur eux-mêmes, cette conversion finalement personnelle, cette conversion de relationnelle, savoir vraiment qui ils sont, leurs besoins, la façon dont ils peuvent communiquer avec les autres. Donc effectivement, on a des prêtres qui nous témoignent combien ça a été un moment incroyable dans leur cheminement. À la fois, c'est à la fois spirituel et c'est à la fois pastoral et humain à la fois. Et là, il y a vraiment des étapes, voilà, très très important, parce qu'en fait ça vient toucher toutes ces dimensions humaines, spirituelles, pastorales. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a un parcours qui vous a peut-être marqué, bouleversé?
Je dirais que chaque parcours, le parcours Talentéo, relations et gouvernement, vit en fait des choses particulières, parce qu'il se crée dans cette promotion de prêtre effectivement une fraternité toute particulière. Et donc oui, moi j'ai vu des prêtres tellement heureux en fait. Moi c'est le sourire de voir certains prêtres quand ils prennent conscience qu'en fait ils ont la possibilité d'abord de porter une vision et de se dire je suis pas juste en train de gérer la décroissance, mais il y a quelque chose de possible. Mais aussi quand ils prennent conscience de leur propre fonctionnement, quand en fait ils disent mais en fait j'ai parfois un peu blessé malgré moi, parce que c'est évidemment pas mon intention, mais j'ai pu blesser d'autres personnes, d'autres prêtres, d'autres laïcs, et en fait ils prennent conscience que il y a des moyens pour bouger ça. Effectivement, parfois en étant trop dur, ou parfois en n'osant pas dire, en étant effectivement dans la peur de blesser, et au fond en fait ça blesse malheureusement encore plus parfois. Donc donner comme ça en fait des clés à chacun pour vraiment rentrer dans ce qui fait partie de leur humanité, ça voilà, c'est vraiment très constructif, très très belle étape.
C'est intéressant quand vous dites des prêtres qui ne sont pas là forcément pour gérer la décroissance, et je reprends le terme que vous avez utilisé, ou même les crises hein, tout simplement, mais ils sont là plutôt pour œuvrer pour une croissance, ou en tout cas une évolution, une mise à jour.
Absolument, c'est que on souvent le mot croissance, il est aussi peu, il peut être sujet en fait à critique. Le but, c'est pas juste une croissance numérique, mais on peut dire que ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on est quand même heureux que des gens qui ne connaissent pas le Christ le rencontrent, voilà. Mais on sait que la fécondité ne se mesure pas seulement au nombre de conversions, évidemment, et que la fécondité c'est beaucoup aussi, ben, donc à rentrer dans un cheminement de cœur à cœur toujours plus grand avec le Christ. Donc vous voyez, donc pardon Michael, votre question, je crois que
je pense que vous avez bien répondu. C'était sur le fait le rôle des prêtres en fait, à la fois dans ce parcours et après. Il n'est plus de gérer les crises que traverse l'Église, mais vraiment de travailler, de trouver des pistes, et donc hop, une vision pour changer les choses.
C'est absolument cette vision. Vous avez peut-être vu cette pièce de théâtre là, Monsieur le curé fait sa crise, enfin qui est issue du livre, vous voyez, qui montre bien cet enjeu de porter vraiment une vision authentiquement sacerdotale, c'est-à-dire qu'un prêtre, ce qu'il veut, c'est donner la vie par son sacerdoce et pas d'être simplement à gérer. La question aujourd'hui, c'est que avec des paroisses de plus en plus grosses, en fait, il peut passer son temps simplement à être dans l'organisation. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment le prêtre peut se donner vraiment dans la mission, dans les sacrements, tout en créant avec des équipes de laïcs de vraies équipes missionnaires qui soient vraiment vraiment en charge d'accompagner, d'appeler, de soutenir en fait les chrétiens et que ces chrétiens soient missionnaires là où elles sont, là où ils sont, en fait, dans les paroisses, dans les villages, dans les villes. C'est vraiment cet appel à la mission qui implique donc aussi pour le prêtre d'apprendre cette vie en parité avec d'autres laïcs, vraiment de construire ces équipes prêtres, laïcs, missionnaires au sein des paroisses.
Anne-France de Boissière, à Pasteur Selon Mon Cœur, est-ce qu'il y a là aussi une rencontre qui vous a particulièrement marqué ?
Oh là là, des rencontres qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont réjoui. Je vais vous dire une rencontre, deux rencontres toutes simples. L'une, c'est un prêtre qui m'a dit « Je suis venu pour le management », pour reprendre l'expression que vous avez employée tout à l'heure, Melchior. Il dit « En fait, j'étais devenu pour être un meilleur manager et en fait, j'en suis revenu pasteur, encore plus pasteur ». Et puis, et ça, j'ai trouvé ça superbe. Et un prêtre qui dit, en fait, tout simplement, j'ai retrouvé le goût d'annoncer Jésus. En fait, vous me posez la question, je suis frappée de voir comme les jeunes prêtres, de plus en plus, ont à cœur d'annoncer le Christ. Et je pense que dans Pasteur selon mon corps, que j'ai expérimenté à différentes reprises, comment ce désir, cette soif d'annoncer Jésus était renouvelé, tout simplement, je vais vous dire très humblement, mais le cœur, ne serait-ce que par la fraternité sacerdotale. Vous savez, je vis toujours ce moment de grande humilité à la fin d'un parcours Pasteur selon mon cœur où des prêtres me disent « Oh là là, ce qui m'a transformé, c'est un échange avec un de mes frères prêtres. » Plus encore que par tout ce qu'on peut leur faire faire. Et en fait, je me dis, c'est vraiment là que je vois que Dieu, je peux vous le dire, Melchior, Dieu est agissant dans notre monde aujourd'hui, en 2022 et en particulier dans le cœur des prêtres.
Ouais, il pense et il agit, comme cette émission, je pense, donc j'agis. Non, ouais. plus sérieusement, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je me suis perturbé tout seul. Olivier Pelot, est-ce que c'est compliqué pour certains prêtres d'accepter de se faire aider ?
Mais bien sûr, mais je vais vous dire, Melchior,
pour tout le monde,
c'est pas que pour les prêtres, pour tout le monde, en fait. On a tous, c'est pas évident, en fait, de reconnaître qu'on a besoin d'être aidé, qu'on n'est pas, justement, omniscient, omnipotent, et qu'on a donc besoin des autres. Et donc, pour un laïc aussi, comme pour un prêtre aussi, bien sûr. Alors, ce qui est plus délicat pour un prêtre, c'est que, effectivement, il est en position de responsabilité, en général, c'est lui qui accompagne, c'est lui qui écoute. Et là, précisément, cette expérience, elle est nouvelle, c'est lui qui est écouté, en fait. Et donc, pour un prêtre, c'est une expérience qui est, en fait, assez incroyable. Et je me rappelle, vous parliez d'un exemple, je me rappelle un moment qui a été pour moi assez bouleversant. C'est un prêtre qui a suivi un parcours, qui a vraiment vécu et qui a été accompagné, parce que nous, on accompagne aussi individuellement chaque prêtre. Et en fait, figurez-vous qu'on a un de nos coachs de Talentéo qui est décédé, Nicolas, qu'on aimait beaucoup, beaucoup, d'un cancer. Et en fait, la famille m'a appelé en me demandant, qui l'a accompagné? Enfin, Nicolas a accompagné quel prêtre, en fait? J'ai appelé ce prêtre, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de venir célébrer les obsèques de Nicolas? Il a dit tout de suite, oui, bien sûr. Il est venu. Et en fait, dans l'homélie, il a témoigné de ce qu'il avait reçu de Nicolas. Dans cette qualité d'écoute, dans cette qualité où lui-même en fait a pu mesurer quel était vraiment encore plus son appel, on va dire son deuxième appel, vous voyez, parce qu'il y a ce premier appel au sacerdoce et au cours de la vie du ministère il y a ce deuxième appel et ça a été pour lui bouleversant et en fait on a tous été incroyablement touchés en fait de voir ce qu'il avait reçu à travers cet accompagnement.
Est-ce qu'on, limite, on peut presque résumer tout ce que vous avez dit tous les deux, hein, Anne-France et Olivier, par ces parcours, des parcours de vie, tout simplement, et ça, son importance. On arrive presque à la fin de cette émission, je dis bien presque, puisque c'est une tradition dont je pense, donc j'agis. On va terminer avec, comme tous les lundis, en parlant santé mentale avec notre chroniqueuse, tout de suite. Et c'est Folie Ordinaire, agir pour notre santé mentale avec la Fondation Falleret. Bonjour Sandrine Broutin.
Bonjour Melchior.
Vous nous parlez ce matin d'un sujet qui concerne un grand nombre de nos auditeurs, la condition des aidants.
Oui, en effet Melchior, nous en connaissons tous un autour de nous quand nous ne sommes pas nous-mêmes aidants. Ils sont environ 11 millions en France. Cela représente environ une personne sur six. Les aidants, ce sont des acteurs essentiels de la solidarité de notre société, avec une majorité de femmes, 57%, qui apportent régulièrement leur soutien à des proches en perte d'autonomie, en situation de handicap ou malade.
Les proches aidants constituent une ressource importante au niveau national. D'ailleurs, le collectif Je t'aide rapporte que leur contribution à la société représente 11 milliards d'euros d'économies par an.
Et oui, ces super-héros du quotidien, aussi discrets qu'essentiels, agissent gratuitement. L'aide au soutien et aux actes de la vie qu'ils apportent est très précieuse. Mais ils sont eux-mêmes, de par leur rôle, vulnérables. Leur implication fait qu'ils se retrouvent en situation d'isolement. Ils subissent une précarité sociale et financière, du stress et une fragilisation de leur santé mentale et physique. La question du soutien à leur apporter est essentielle, tout comme la reconnaissance de leur place et de leur rôle.
Ah bah tiens, puisque vous l'évoquez, parlons de la reconnaissance. La stratégie nationale pour les aidants reconduite en 2023 ambitionne vraiment de redéfinir ce statut.
Oui, tout à fait. Il y a une volonté de tenir compte de la diversité des aidants pour favoriser leur inclusion dans les dispositifs actuels de notre société. Il convient aussi de mieux les outiller par des formations et par l'entraide afin de les soutenir dans leur rôle auprès des personnes aidées. Mais allons plus loin. Il est vraiment nécessaire de reconnaître les savoirs qu'ils ont acquis dans l'accompagnement de leurs proches avec une meilleure reconnaissance de cette expertise de la part des professionnels. Plus d'écoute, une meilleure prise en compte de leurs paroles, davantage de coopération. Gageons que la validation des acquis de l'expérience, la VAE, désormais élargie aux proches aidants, fera bouger quelques lignes.
Et alors que peut-on faire pour prévenir l'épuisement et l'isolement des proches aidants ?
L'enjeu est de les aider à maintenir un équilibre de vie, à concilier aidance et vie sociale et professionnelle. Il faut étoffer les réseaux de soutien de proximité avec des solutions concrètes, sur mesure, des relais au domicile, des heures ou séjours de répit, des temps d'entraide. Les personnes que la Fondation Falleret soutient remplissent le rôle d'aidant depuis généralement de très nombreuses années. 80% des troubles psychiques se révèlent entre 15 et 25 ans, on l'a déjà vu. Les adultes, comme les plus jeunes, sont ainsi confrontés de façon très précoce à la souffrance psychique de leurs proches. Il est donc impératif de préserver leur santé, leur énergie et leur morale. Cet état conditionne en grande partie la relation avec la personne qu'ils aident et leur bien-être mutuel.
Et rapidement, Sandrine, combien sont-ils ces jeunes à vivre avec un proche présentant des troubles psychiatriques ?
Alors, il n'existe pas de données précises sur le nombre de mineurs vivant avec un proche en souffrance psychique. Mais nous savons qu'il est conséquent. Pour la Fondation Falleret, avant d'être aidants, ils sont surtout et avant tout des enfants qui ont besoin d'être soutenus. En cela, notre service d'accueil et de soutien, les Funambules, innovent, tout comme la plateforme Jepsy.org. Des professionnels connaissant la situation spécifique de ces jeunes sont présents pour leur permettre de s'exprimer, de recevoir des réponses adaptées à leur âge sur la maladie mentale, d'être reconnus dans ce qu'ils vivent et savoir qu'ils ne sont pas seuls.
Voilà, agir pour les aidants et ça, son importance. Merci beaucoup Sandrine Broutin et on invite vraiment chacun d'entre vous à réécouter cette chronique sur rcf.fr et surtout à y trouver des contacts essentiels comme Ma Boussole Aidant pour trouver des solutions concrètes près de chez vous. Merci Sandrine Boutin et puis merci à tous les deux, Olivier Pelot et Anne-France de Boissière, d'avoir été avec nous dans Je pense donc j'agis. C'était un plaisir de discuter avec vous et voilà, on retient ces deux parcours à la fois Talentéo, dont on peut retrouver plus d'informations sur talentéo.org et puis pasteur selon mon cœur alpha.fr. Merci d'avoir été avec
merci
nous.
Merci Melchior.
Et merci.
Merci Melchior et au revoir Olivier.
Merci à Hugo, Pierre-Henri et Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain, 9h-11h, où on parlera de l'actualité de l'écologie. Et puis après le Black Friday, comment on peut changer nos modes de consommation. C'est tout un programme. Bonne journée à tous et à demain avec RCF toujours.